Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, comment sortir d'une guerre civile, émission enregistrée ce matin. Ce n'est encore qu'une étape, mais une étape historique. Le 24 août dernier, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont conclu un accord de paix pour mettre fin à 52 ans de conflit armé. Cet accord n'est pas le premier, mais il se veut conclusif. Chaque partie a annoncé qu'elle mettait un terme définitif aux hostilités. On estime à 260 000 le nombre de morts causés par ce conflit, sans compter les milliers de disparus. Le 2 octobre prochain, les électeurs colombiens diront par référendum s'ils approuvent les accords du mois d'août. Une consultation importante pour réussir la paix. Sortir d'une guerre ne peut se régler uniquement au niveau politique. C'est toute la société qui est engagée dans le processus de réconciliation. Et ce processus n'a rien d'une formalité. Il suffit d'observer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple en Irlande du Nord, au Guatemala, pour comprendre qu'il faut du temps pour sortir d'un conflit. Du temps pour désormais ceux qui ne vivaient que pour la guerre, du temps pour réparer, c'est notamment le rôle de la justice, en particulier de la justice transitionnelle, du temps pour comprendre et raconter ce qui a poussé aux divisions. Alors y a-t-il des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui peuvent être dupliquées, ou bien chaque cas est-il particulier? Comment sortir d'une guerre civile? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Anne Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'ONG ACAT, ACAT pour Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous y êtes responsable de la zone Amérique. Et vous êtes une des rédactrices du rapport « Les accords de paix en Colombie et après » que vient de publier le réseau France-Colombie Solidarité. Pour discuter avec vous, Sandrine Lefranc, bonjour.
Un bonjour qui est un bonsoir.
Bonsoir, politiste et sociologue, vous êtes chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique à l'Université Paris-Ouest et vous êtes spécialiste de l'étude des dispositifs de sortie de conflits politiques violents. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone en Côte d'Ivoire, à Boaké, il s'agit de Séverin Kouamé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Boaké. Vous êtes un des acteurs, des nombreux acteurs de la sortie de conflit en Côte d'Ivoire, puisque vous coordonnez une équipe de l'ONG Interpeace qui œuvre au rapprochement et à la réconciliation de la population ivoirienne. Alors, vous aurez l'occasion justement de nous raconter un petit peu votre travail, Séverin Kouamé, mais je voudrais qu'on démarre avec ce qui a fait l'actualité de ces derniers jours, et c'est cet accord de paix qui a été signé par les parties prenantes au conflit en Colombie. Un journaliste du Monde sur place observait l'enthousiasme, on va dire très mesuré, de la population colombienne suite à la conclusion de ces accords. Anne Boucher, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de scepticisme de la population, que ces accords-là, on attend de voir s'ils seront vraiment appliqués pour y croire?
Oui, tout à fait. Il y a pas de naïveté au sein de la population colombienne aujourd'hui. Déjà, il faut rappeler qu'il y a eu trois tentatives préalables au cours des années 80-90 qui se sont soldées par des échecs et une recrudescence de la violence ensuite. Il y a le fait que les FARC sont particulièrement détestés quand même par la population et que en tout cas, une partie de la population a peur qu'on leur fasse trop de cadeaux. Et puis évidemment, cette conscience que la signature des accords de paix ne peut être qu'un début, mais que la question des violences ou des inégalités sociales ne vont pas se résoudre du jour au lendemain.
Sandrine Lefranc, qu'on peut dire malgré tout que signer un accord de paix, c'est un acte politique symboliquement extrêmement fort et en tout cas essentiel.
Sans aucun doute essentiel, puisque de toute façon, la construction de la paix, c'est d'abord de la politique, y compris de la base politique. Mais ça a beau être essentiel, ça n'est plus aujourd'hui jugé suffisant.
C'est vrai, quoi, mais s'agissant de la Côte d'Ivoire, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'accord de paix en tant que tel signé en 2011. Après l'épisode de guerre, qui n'était pas le premier d'ailleurs, mais qui avait suivi la présidentielle. Est-ce que c'est quelque chose qui manque pour vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que le fait que justement il y a eu déjà des accords de paix par le passé, notamment ceux de Ouagadougou en 2007 je crois, et puis ceux de Marcoussi en 2003, et qui n'avaient pas finalement conduit à des résultats probants, font que peut-être que les Ivoiriens se disent finalement les accords de paix ça ne sert pas à grand-chose?
Ben, comme l'une de nos interlocutrices le disait, c'est déjà une étape importante, un accord de paix. Dans le contexte de la Côte d'Ivoire, dès qu'il y a eu les hostilités militaires, là, il fut un moment où, justement, sous les auspices de la France, les parties belligérantes se sont accordées à ne plus faire tourner la poudre. Mais ça n'a pas empêché qu'une décennie durant, qu'on vive les soubresauts du conflit, puisque il y avait toute la dimension militaire, mais aussi la dimension politique, sociale du conflit. Donc c'est une étape effectivement que de signer un accord de paix, mais aller au-delà de l'accord de cessation des hostilités pour rentrer dans de la négociation et de la politique politicienne, comme disent les politiciens, là aussi c'est quelque chose de fondamental.
Est-ce que c'est d'ailleurs une règle qu'on retrouve assez souvent dans les sorties de conflit, Sandrine Lefranc, c'est-à-dire que pour qu'un accord de paix soit définitif, il faut, en tout cas il a souvent été précédé par des accords qui ont été des échecs et que c'est une construction qui prend énormément de temps.
Les organisations internationales vous diraient que quelque chose comme, enfin, qu'environ 4 pays sur 10 sortant de conflits civils y retombent. Une guerre, c'est une longue histoire, avec y compris des phases de paix à l'intérieur. Il n'y a pas la guerre, puis la paix. Ou la paix puis la guerre, il y a des rechutes, des tentatives, et c'est une très longue histoire.
Et cette très longue histoire, d'ailleurs, on la retrouve aussi en Colombie, Anne Boucher. C'est d'ailleurs ce qui vous a permis de sortir d'ailleurs très vite ce document suite aux accords de paix. C'est-à-dire que vous travaillez sur les négociations, et les négociateurs aussi, évidemment, mais depuis déjà pas mal d'années.
Oui, enfin, en tout cas, on a suivi les négociations. On travaille avec la société civile, les ONG colombiennes qui sont impliquées dans la construction de la paix et le développement et la lutte contre les violations des droits de l'homme. Et effectivement, ça a pris du temps. Les accords, ça a pris 4 ans. Il y a un processus en 5 points quand même. Il y a eu 5 préaccords sur des questions pratiques et notamment pour essayer de résoudre les causes structurelles, pas seulement le cessez-le-feu et la démobilisation. Les questions agraires, la lutte contre le narcotrafic, l'ouverture politique, la participation politique et puis la question de l'accès à la justice pour les victimes.
Donc ça prend du temps en amont, ça prend du temps ensuite pour que la paix soit véritablement effective. Est-ce qu'il n'y a pas souvent la tentation, Sandrine Lefranc, de vouloir justement sortir trop vite du conflit? C'est-à-dire, une fois que l'accord de paix est signé, de se dire, bah voilà, ça y est, on a fait le plus important et maintenant, bah passons à autre chose.
Je pense qu'il y a effectivement une erreur à penser que les sociétés sortent de guerre dans un état de dévastation complète et que tous ont envie absolument et là tout de suite de renouer avec la paix. Donc du côté de la population, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui se sont accommodés de la guerre, ont trouvé un intérêt dans la guerre. Et puis par ailleurs, il y a aussi notre hâte à nous, aux gens qui regardons ces choses à longue distance, notre hâte d'organisation internationale aussi, à vouloir mettre ça en bon ordre et à faire la paix là, tout de suite, dans des conditions qui sont parfois assez peu favorables.
Et d'ailleurs, on impose d'ailleurs assez souvent, par exemple, la tenue d'élections, en disant, voilà, en gros, à partir du moment où il y a des élections, c'est que la démocratie est de retour, c'est donc que tous les problèmes sont à peu près réglés.
Oui, on veut mettre la scène internationale en bon ordre à partir de nos propres catégories démocratiques. Et de fait, j'ai des collègues qui ont montré que vouloir organiser très vite des élections a plutôt tendance à justement inciter les politiciens à renouer avec les règles de la guerre. Donc on va trop vite, on impose nos modèles, on oublie de demander aux intéressés dans quel état ils sont et ce qu'ils souhaitent. Et effectivement, c'est assez bâclé et ça refait de la guerre parfois.
C'est vrai, quoi, mais vous nous disiez en préparant l'émission que ça avait été peut-être le cas justement de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y avait un processus qui avait été mené peut-être de manière un petit peu trop rapide et que le pays s'était un peu laissé imposer son agenda par la communauté internationale.
Voilà, je pense que c'est toute la question justement de la différence ou des confrontations d'agenda. Vous voyez, des crises comme les nôtres sont des crises en fait d'appropriation d'un modèle démocratique qui parfois est imposé de l'extérieur. Au cœur même de la conflictualité en Côte d'Ivoire, il y a toute la question même d'un accord de sens entre différents entrepreneurs politiques sur les modalités de désignation du chef. Ces modalités-là n'ayant pas été consensuellement acceptées par les uns et les autres, la sortie des crises a été proposée par l'extérieur comme devant passer par les élections. Donc vous voyez que on prend en fait la cause ou l'une des causes du problème pour en faire la solution. Et on l'a bien vu, hein, dans le contexte de la Côte d'Ivoire, c'est à maintes reprises que les élections ont été repoussées pour finalement se tenir en 2010 et ouvrir la voie à un autre épisode plus encore violent de la conflictualité. Donc c'est clair que ces modèles démocratiques basés sur les élections qui sont supposés être justement la panacée pour sortir ces sociétés des conflits portent en elles-mêmes les germes de la conflictualité longue en fait.
Je vois que Sandrine Lefranc vous approuve.
Alors j'approuve et en même temps je me rends compte à quel point nous-mêmes on a tendance à douter de choses qui devraient emporter notre conviction. C'est-à-dire qu'on a tendance à douter que la bonne paix est démocratique. Et on en serait presque à se dire que la manière autoritaire de faire, c'est-à-dire d'imposer le silence, une amnistie qu'on va rediscuter 20 ans après, serait la meilleure. Ça me trouble moi-même de me rendre compte que j'approuve ça. C'est-à-dire que je préférerais dire oui, une paix démocratique, plutôt que douter de cette manière de faire et douter de l'intérêt d'inviter toute la population à approuver la paix.
C'est C'est-à-dire, ça fait partie effectivement peut-être de la difficulté. Il faut avoir une dose de doute pour ne pas être d'un enthousiasme aveugle au risque de compromettre la paix. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un minimum de conviction pour aller vers la paix, Anne Boucher. C'est de ça dont vont avoir besoin les Colombiens.
Oui, oui, tout à fait. Et là, je crois que dans le cas particulier des accords de paix colombiens, ce qui est intéressant, c'est que ça vise quand même à aller au-delà de la résolution du conflit entre les FARC et le gouvernement. Si on y regarde bien, les objectifs, c'est aussi que toutes les populations qui ont été spoliées, déplacées, puissent retrouver un accès à la terre, qu'il y ait un développement des infrastructures dans les zones rurales, que les mouvements sociaux puissent avoir un accès à l'expression politique, que les défenseurs des droits de l'homme puissent être mieux protégés. Il y a aussi l'objectif, sur certains points, de lutter contre des autres organisations criminelles, et notamment les paramilitaires. Donc, on est dans un projet relativement ambitieux, s'il est bien appliqué, parce qu'en fait, tout l'enjeu est là. Il y a la signature, il y a le contenu des accords, mais en fait, c'est concrètement comment on va les mettre en place. Et quand même, dans quel temps? C'est-à-dire, effectivement, on est obligé de se donner du temps pour réaliser tout ça, mais il ne faut pas trop traîner pour donner les premiers signaux positifs. Il est impératif que rapidement les populations lésées constatent des améliorations de leurs conditions de vie.
Alors ça sont les premiers signaux qui agissent sur les causes. On va y revenir d'ailleurs dans un instant, parce que c'est un élément extrêmement important. Puis il y a aussi des signaux qui sont plus politiques, qui peuvent justement se vouloir définitifs. Vous évoquiez les lois d'amnistie, par exemple, Sandrine Lefranc. Alors, on a eu un cas intéressant durant l'été, c'est celui du Salvador. Il y a eu un conflit entre 1979 et 1992. 75 000 morts, des milliers de disparus, un petit peu comme en Colombie, même si le conflit était une toute autre nature. 1993, donc très vite après la fin du conflit, il y a une loi d'amnistie qui est votée, qui vient d'être déclarée anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel du Salvador. Alors pour la classe politique, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué, cette décision du Conseil constitutionnel, parce que notamment le président du Salvador dit, bah attention, on risque de recréer, de rouvrir les divisions de la société. Est-ce qu'il y a cette tentation en général de vouloir justement aller trop vite vers l'amnistie, de régler le conflit par une justice un petit peu, je vais pas dire expéditive, mais en tout cas assez radicale?
Alors c'est effectivement une mauvaise nouvelle que je dois apporter, c'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à penser que la justice pénale internationale s'est installée, qu'on a de tout autre repère, on parle de cascade de justice, on a l'idée maintenant que quand on sort d'une guerre avec des violations graves des droits de l'homme qui ont été commises, on va pouvoir mettre en place des solutions judiciaires. Or, on sait que l'amnistie demeure la solution la plus courante. Aujourd'hui, c'est presque un réflexe des gouvernements, qu'ils soient démocratiques, timidement démocratiques ou autoritaires, de recourir à l'amnistie.
Après, ça ne marche jamais, ça. C'est-à-dire, il y a toujours, au bout d'un moment, une sorte de contre-coup.
Pas toujours, bien sûr que non. Dans notre pays, il y a des amnisties qui n'ont pas été discutées et qui, vraisemblablement, ne seront pas discutées. Donc non, ça peut marcher. Ça dépend de l'air du temps, je dirais, notamment du fait qu'on peut aujourd'hui revendiquer une justice pénale internationale. Mais ça dépend aussi de choses très bêtement politique. Est-ce que les militaires s'en vont? Est-ce qu'ils prennent leur retraite? Est-ce que toute l'armée a été impliquée? Qu'ont fait les magistrats pendant la guerre? Donc c'est des choses qui ont à voir avec qui rend la justice, qui, au niveau du Parlement, s'associe à qui. Ce sont des choses qui relèvent de la banalité des vies politiques et administratives ordinaires, qui font qu'une amnistie est discutée, rediscutée ou pas.
Alors, s'agissant de la justice internationale, la Côte d'Ivoire est concernée au premier chef, hein, puisque depuis quelques mois, s'est ouvert à la CPI, à l'AE, le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui par les Ivoiriens, d'ailleurs, cette façon d'essayer de régler, en partie en tout cas, ce qu'a été le conflit en Côte d'Ivoire, par une justice extérieure au pays? C'est vrai, Kwame?
Je pense que concernant cette question de justice pénale et donc le traitement qui est fait à l'ex-chef d'État, ça cristallise en fait les lignes de fracture aujourd'hui dans la société ivoirienne, parce qu'il y a différents niveaux. Le premier niveau, justement, on parlait d'amnistie et tout ça, mais c'est toute la question justement de l'opposition entre les perpétrateurs des crimes et les victimes. Quel est le statut des victimes? Dans le contexte de la Côte d'Ivoire, 10 années de crise ont laissé justement des blessures profondes. Et aujourd'hui, c'est toute la question de savoir qui est victime de quoi et de qui. Donc, tant qu'on ne règle pas justement cette question de la victimisation, donc de ce sentiment fort que toutes les composantes de la société ont l'impression elles aussi d'avoir été victimes, ça crée justement un sentiment fort qui se développe, qui est que à un certain moment, soit par l'amnistie, soit par la justice pénale, on crée une sorte de justice à deux vitesses. où certaines des composantes ont l'impression qu'elles sont lésées, justement, dans la gestion, justement, de la fin de la crise. Donc, cette question est importante et elle pose une autre question qui est celle de la vérité des faits. Qui a fait quoi? Et un gros débat qu'on a aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, dans la société ivoirienne et même dans d'autres sociétés qui ont connu le conflit, c'est justement qu'on ne s'accorde pas à l'écriture d'une mémoire collective du conflit. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, etc. Et donc ça fait que tant qu'on n'a pas justement cette vérité commune partagée, cette compréhension commune du conflit, on finit par se rendre compte que les uns estiment avoir été lésés parce que bon, elles estiment qu'il y a une justice à deux vitesses, les autres estiment que voilà, la justice n'est pas encore suffisamment rendue. Dans tous les cas, je me fais un peu l'écho de propos tenus par les chefs d'État, M. Laurent Gbagbo, qui disait comme ça que on ne sort pas d'un conflit comme on sort d'un gala. Donc, il y a justement tout un travail mémoriel à faire pour savoir justement si les composantes de la société s'accordent sur ce qui s'est passé. Et si elles s'accordent sur ce qui s'est passé, elles peuvent être capables justement d'identifier les responsabilités. Et en identifiant les responsabilités, alors on peut ouvrir justement la voie soit à la justice, soit à une amnistie. Mais dans tous les cas, lorsque cet épisode justement de construction collective de la vérité ne se fait pas, ben on reste dans les cas comme les nôtres où justement, finalement, il y a un processus judiciaire qui se met en place, mais qui ne concerne pas tout le monde parce que les gens ont le sentiment que voilà, ça ne touche qu'un camp ou un autre.
Anne Boucher.
Oui, cette question de l'amnistie est aussi très cruciale en Colombie quand on parlait là, pour commencer, de l'accueil un peu timide de cette annonce des accords de paix par la population colombienne. La question de l'amnistie est au cœur des inquiétudes. Beaucoup craignent qu'il y ait une amnistie massive des divers crimes, notamment commis par les FARC. Alors, il y aura.
Vous évoquez d'ailleurs dans le rapport que vous avez coécrit les réticences d'une partie de la population au fait que, par exemple, dans les accords est prévu qu'il y ait des places qui soit réservé au Parlement à d'anciens membres des FARC.
Oui. Hein, donc tout à fait. Les deux points les plus délicats aujourd'hui, c'est effectivement la question de l'amnistie et la question de la participation politique des FARC au sein du Parlement, indépendamment de leur représentativité réelle au sein de la population. Mais pour revenir sur la question de l'amnistie, en fait, ce que prévoit quand même l'accord sur la justice transitionnelle et les victimes en Colombie, c'est qu'il y aura d'une part, normalement, une commission d'éclaircissement pour, comme le disait M. Kwame, pouvoir établir les faits, reconnaître les victimes, voir les responsabilités, essayer d'avoir des garanties de non-répétition. Et puis, il y a un système de justice spécial qui est prévu. Certains pourront être amnistiés, mais seulement pour les crimes politiques ou connexes, c'est-à-dire actes de rébellion, etc. Pour les cas un peu tangents, ils passeront devant une chambre d'amnistie et de recours en grâce. Et puis, il y a tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui, eux, devront passer devant un tribunal spécial de paix. Alors, là aussi, il y a discussion parce que si les guerriers démobilisés reconnaissent les faits et les actes, ils pourront bénéficier de peines réduites, des alternatives à la prison et pas au-delà de 8 ans. Si, en revanche, ils refusent de reconnaître, ils peuvent encourir une peine de prison jusqu'à 20 ans.
Alors, c'est cette question, Sandrine Lefranc, de la nécessité d'établir les faits qui est de faire en sorte qu'il soit le plus largement partagé. Ça, c'est forcément compliqué, puisqu'on sait bien qu'en général, l'histoire qu'on raconte, enfin, ça, c'est un petit peu un lieu commun de le dire, mais je le redis quand même, c'est rarement l'histoire des vaincus, c'est plutôt l'histoire des vainqueurs.
Et encore, si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il faudrait prendre un micro et aller voir là, sur les trottoirs, autour de la maison de la radio, et demander à tous les Français s'ils ont la même version de l'histoire. Ce qui est curieux, alors, de fait, aujourd'hui, la communauté internationale considère qu'il faut établir la vérité pour que la paix devienne une vraie paix, pour que ce soit une paix durable. C'est évidemment un bon principe, moralement, j'y adhère, mais je veux juste dire qu'il y a des petites limites, ou en tout cas qu'il faudrait réfléchir à cette question un petit peu autrement. D'abord, les institutions qui sont aujourd'hui mises en place, comme les commissions de vérité, pour établir ces vérités, sont des institutions un peu ambivalentes. Elles sont assez souvent adossées à des lois d'amnistie, elles sont assez souvent là, un petit peu comme quand Foucault parle de la sexualité, vous allez voir où je veux en venir, elles sont assez souvent là pour faire parler les victimes, mais de manière à les faire taire. Faire parler les victimes, c'est-à-dire leur faire tenir un discours un peu particulier, leur demander d'exposer leurs souffrances morales de mères qui ont perdu des enfants. Donc on leur demande de parler, mais on leur demande de parler pas de manière politique. Donc il y a d'abord une ambivalence de ces institutions qui veulent aussi demander aux victimes de tenir le bon discours. C'est aussi ça qu'on appelle vérité aujourd'hui dans les modèles portés par la communauté internationale. Et puis par ailleurs, c'est quoi cette vérité? Enfin, moi je ne partage pas la vérité de mon voisin, j'en suis à peu près certaine. La vérité, c'est dans ces affaires-là une affaire politique. et il n'y a pas de vérité unique.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Comment sortir d'une guerre civile? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans Du Grain à Moudre en compagnie de Sandrine Lefranc qui est politiste et qui est spécialiste de l'étude des sorties de conflit. D'Anne Boucher qui est responsable de la zone Amérique à la CAT, une ONG qui vient de copublier un rapport sur les accords de paix en Colombie en compagnie de Séverin Connet qui est à Boaké en Côte d'Ivoire qui est sociologue et qui œuvre sur le terrain pour essayer aussi de faire discuter justement les gens sur ce qui a peut-être pu les diviser, ce qui pourrait les réconcilier. Alors je ne sais pas comment vous avez envie de réagir peut-être à ce qu'a dit Sandrine Lefranc sur finalement le caractère assez, on va dire, aléatoire de ce qu'on peut considérer comme étant la vérité. Mais comment, j'aimerais que vous nous racontiez peut-être comment vous essayez d'agir localement pour faire discuter les gens, pour essayer aussi peut-être de leur faire réaliser que les divisions qui les ont conduits peut-être à se battre étaient peut-être pas des divisions qui reposaient sur des choses extrêmement concrètes.
Justement, c'est en cela que je suis complètement d'accord avec ma collègue, que les questions justement liées à la vérité, il n'y a pas une vérité unique, mais il est impossible justement dans une société d'utiliser la voie du dialogue comme un instrument qui permet justement de s'accorder à minima sur les faits. Parce qu'à la vérité, les faits sont là. Il y a les interprétations des faits qui justement peuvent différer du fait de la position de chacun. Mais les faits, la commission des faits, qui a fait quoi, d'où est parti à la vérité tout ce qui nous a opposé, ça, il est possible justement d'engager justement une construction de société là-dessus. Mais en utilisant un instrument comme un dialogue, mais le dialogue justement qui est basé sur une controverse constructive dans laquelle toutes les positions, toutes les perspectives de toutes les parties prenantes sont confrontées.
Vous dites d'ailleurs, Séverin Kouamé, que quand on fait l'effort de déconstruire l'adversité, on s'aperçoit que les lignes de fracture ont été instrumentalisées par la guerre et on découvre aussi parfois qu'elles ne reposent sur rien.
C'est cela. Et on a fait l'expérience dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où, grâce à un petit financement avec le Fonds de consolidation de la paix, on a mené un processus de dialogue justement qui avait cette vocation, qui était d'amener les communautés à être réflexives sur leur passé récent pour pouvoir poser ensemble un diagnostic commun de ce qui les a opposés. Mais l'idée pour nous, c'était pas juste de s'arrêter à ce diagnostic basé sur une sorte de compréhension commune des origines de la conflictualité, mais aussi les amener à se rendre compte qu'au-delà de ce qui les oppose, ils sont capables de mettre le doigt sur beaucoup plus ce qui les unit et amplifier ce qui les unit pour justement construire une société qui est plus durable et qui survit à la conflictualité. Et là, le dialogue, justement, a cette vertu cathartique. Effectivement, je souscris avec ma collègue sur le fait que parfois, on fait dire aux gens, on fait parler les gens pour qu'elles se taisent, mais lorsque c'est un dialogue ouvert, lorsque c'est un dialogue qui est facilité par des acteurs suffisamment légitimes, dans lesquels les gens se rendent compte que se parler peut être constructif pour leur société, parfois, ça les amène à déconstruire leur propre rapport au conflit. Et on a fait l'expérience où, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a réussi comme ça, sur une période, un processus de 6 mois, à engager des communautés qui vivaient dans un antagonisme notoire de longues années durant, à expérimenter elles-mêmes une sorte d'auto-diagnostic de ce qui les oppose. Et lorsque on les amène à être critiques, à être réflexifs sur justement les arguments qu'on balance, parce que vous savez, on est dans des sociétés dans lesquelles aujourd'hui, il y a une sorte de... les populations, les communautés sont bombardées parfois par de l'information. Et cette information qu'elles reçoivent, parfois, structure leur mode de pensée. De sorte que, quand vous allez vers elles vous servent naturellement ce que vous avez envie d'entendre ou ce que le cadre général, le mode de pensée global pose. Quand vous arrivez dans certaines zones, les causes de la conflictualité sont celles-là que la presse internationale, la communauté internationale présente. On dit oui, c'est les questions foncières, oui, c'est les questions d'identité, oui, etc. Mais lorsque les communautés réussissent à être réflexives là-dessus et à gratter le vernis justement de ce type d'argument, elles se rendent compte que, à la vérité, il y a une lutte sur le pouvoir qui se fait au sommet de l'État, mais qui justement se nourrit de leurs propres antagonismes, mais leurs antagonismes qui n'ont rien à voir forcément avec les modalités de désignation d'un chef, mais avec justement des faits basiques liés justement à la cohabitation des communautés qui, depuis de longues années, justement, mettaient sous les teignoirs certaines des tensions qui justement les travaillaient. Et lorsque la conflictualité se déporte dans leur localité, cette tension qu'on ne prenait pas le temps de régler s'exacerbait parce qu'il y avait des entrepreneurs politiques qui avaient cette capacité, en instrumentalisant justement ces lignes de fracture, à leur donner de l'étoffe.
Sandrine Lefranc souhaite réagir à votre
intervention. Oui, je crois que ça touche à un point très sensible, y compris pour nous, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à penser que les guerres sont des affaires de haine, de vraie haine, c'est qu'on se déteste et qu'on a des raisons idéologiques, culturelles, religieuses, ethniques, de se détester. Or, on se rend compte que les populations sont souvent beaucoup moins dupes des conflits qu'on ne le pense, et qu'au fond, elles ont bien compris, sans avoir lu les psychologues sociaux, qu'on est tous capables de créer des conflits à partir de rien, du bleu clair, enfin, allez, on fait un petit match de foot là sur le trottoir et on s'oppose et on finit par se détester. Les organisations internationales proposent beaucoup de solutions dans l'idée qu'il faut déconstruire les préjugés, démonter les haines, démonter les hostilités. Ce que dit mon collègue ivoirien, c'est tout à fait juste, et ça n'est pas parce qu'ils déconstruisent leurs préjugés, c'est parce qu'ils travaillent ensemble, qu'ils cohabitent en dialoguant autour de la paix, ils apprennent juste à travailler ensemble, à s'accommoder les uns des autres. Maintenant, toutes ces solutions qui sont des solutions de dialogue locaux, où on fait des crèches mixtes, on fait des colonies de vacances pour apprendre aux gens à s'aimer les uns les autres, c'est en règle générale en partie un fantasme qui découle de nos représentations de la guerre.
Alors ça pose justement ça aussi la question de la responsabilité d'ONG comme celle à laquelle vous appartenez, Anne Boucher, c'est-à-dire qu'ils sont des intervenants et des observateurs de ces processus de paix, en l'occurrence celui qui est en train de se mettre en place en Colombie. Et j'étais, je dois dire, frappé par une phrase du communiqué commun qui a été publié donc par le réseau France-Colombie Solidarité au lendemain du 24 août, dans lequel vous dites « ça nécessitera une vigilance forte de la France et de l'Union européenne afin de garantir la mise en œuvre des réformes et la non-répétition de la violence ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme de patronage extérieur pour réussir à sortir d'une guerre civile comme celle qu'a connue la Colombie ?
Alors, ce n'est pas nécessairement la question d'un patronage. Déjà, je fais une petite digression, mais on sait que le Conseil de l'ONU va envoyer 500 observateurs pour une mission de suivi et vérification pour le processus de dépôt des armes et des mobilisations, ce qui nous semble important sur une année quand même. Mais de fait, la France a déjà des liens avec la Colombie, l'Union européenne aussi, voilà, des liens politiques ou de coopération. Et ce que nous, on dit, c'est qu'il y a une responsabilité à suivre le processus et ne pas se contenter de la signature des accords de paix. Et notamment, bien veiller à ce que des investissements étrangers, des intérêts économiques d'entreprises françaises ou européennes sur place ne viennent pas créer ou renforcer des nouveaux conflits, essentiellement les conflits socio-environnementaux liés à l'extraction minière, à l'exploitation des ressources hydriques, etc. Qu'elle soit aussi véritablement vigilante à ce qu'il y ait la lutte contre l'impunité, donc ne pas se contenter de la mise en place éventuellement d'un tribunal, ou vraiment aussi suivre ce qui s'y passe, et également suivre la question crucial du processus de paix qui est censé avoir commencé mais qui n'a pas véritablement commencé avec l'autre guérilla, l'armée de libération nationale, et puis le démantèlement des paramilitaires qui finalement était censé avoir eu lieu en 2005 et n'a jamais eu lieu. Donc il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il y a un suivi nécessaire. Pas pour faire à la place des Colombiens ou du gouvernement colombien, mais montrer que voilà, il y a une attention et qu'on peut pas se contenter des déclarations.
Et aussi parce que quand on sort d'un conflit, on a besoin d'une médiation, et que quand on est dans un conflit qui a été un conflit national, Sandrine Lefranc, j'imagine qu'il faut bien aussi aller chercher à l'extérieur des acteurs, alors qui ne sont peut-être pas totalement neutres, mais enfin en tout cas qui ont un autre regard sur ce qu'a été ce conflit.
Oui, alors c'est en tout cas une proposition très fréquente de la communauté internationale, et ça a pu fonctionner. Hein. De fait, il y a parfois soit des hautes personnalités privées, soit des gouvernements qui s'interposent et qui font des médiateurs efficaces.
Des cas d'ailleurs où ça a particulièrement bien fonctionné ?
Oh, ben, je suppose que je pourrais parler de Santé Egidio dans certains pays d'Afrique, et cette petite organisation très proche du Vatican qui a accompagné avec un certain talent certains processus. Alors, de manière beaucoup plus embêtante, je pourrais mentionner le rôle des États-Unis en Colombie, qui a accompagné le processus à leur manière. Enfin, donc il y a des arbitres efficaces, mais au fond, l'arbitre peut ne pas être efficace, ça n'est pas très important. En Colombie, par exemple, une des choses assez fascinantes, c'est qu'ils ont utilisé, notamment le gouvernement Uribe, qui était un gouvernement à l'époque très belliqueux et assez peu attentif aux victimes, le gouvernement Uribe a utilisé la justice transitionnelle, et il en a fait ce qu'il a voulu. Donc il utilise l'aide extérieure, il se le réapproprie, et ça peut donner des effets intéressants. C'est ça qui est pas mal. C'est, peu importe que l'arbitre soit très dévoué et honnête.
Tiens, puisque vous parlez d'arbitre, je vous propose de parler un peu de foot.
Ivoiriens, ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là.
Ce sont des propos qui, je dois le dire, à chaque fois me donnent un peu le frisson, chaque fois que je les entends. Ça date de 2005, c'est Didier Drogba qui est footballeur ivoirien extrêmement célèbre. En 2005, l'équipe de Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Le pays est donc plongé dans une guerre civile. Il prend la parole à la télévision après avoir fait son match pour dire aux Ivoiriens, bah voilà, attention, on vous demande vraiment de vous réconcilier. Il n'y a aucune raison de faire la guerre. Et je précise d'ailleurs que c'est un extrait qu'on a pris dans un excellent documentaire, Les Rebelles du Foot, qui est signé Gilles Roff et Gilles Pérez. Alors, Séverin Kouamé, vous aviez évidemment reconnu Didier Drogba. Si j'ai choisi cet extrait, c'était aussi donc pour parler de l'importance de l'appropriation par la société civile, justement, de la paix, et peut-être aussi de la nécessité, comment dire, d'avoir des représentants pour justement essayer de faire avancer cette paix, mais des représentants qui soient en dehors de la sphère politique.
Oui, c'est important, mais je voulais rapidement revenir sur la question de l'arbitrage, et puis revenir sur cette question. Parfois, vous voyez, certains des arbitres sont même partis pour notre conflit. C'est comme si on extrayait un joueur de la compétition pour lui dire, bon, dorénavant, c'est toi qui arbitre. Alors qu'elle a parfois des intérêts dans la conflictualité. Voilà, dans de nombreux conflits, les puissances occidentales sont elles-mêmes parties prenantes d'une façon ou d'une autre. Donc, leur donner justement le rôle d'arbitre revient justement à briser les règles, justement, de la médiation, vu qu'elles-mêmes, elles ont des intérêts là-dedans. Ça, c'est d'un. De deux, justement, sur la question de ces acteurs qui peuvent avoir de la légitimité pour parler, je pense que c'est intéressant. Ça a joué sur l'émotion. Je pense que je me souviens pas qu'il n'y ait pas eu d'Ivoirien qui ait eu une petite larme quelque part lorsqu'ils ont vu Didier Drogba parler. Mais un des éléments, c'est de savoir justement quelle prise peut avoir la parole de Didier Drogba sur une conflictualité qui dure depuis des années, dont les origines dépassent largement le seul fait d'appeler les gens à s'aimer et à faire la paix. Donc, c'est intéressant. Ça joue sur l'affect. Ça joue sur l'émotion, ça appelle les gens, mais l'Ivoirien lambda que vous allez questionner après va dire, mais attends, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que c'est moi qui ai été à la base d'une rébellion? Est-ce que c'est moi qui, justement, ne suis pas capable d'amener les compétiteurs politiques à s'accorder sur des modalités consensuelles de gouvernance, etc.? Donc ça, c'est un élément qui est important. C'est bien, tant que, justement, ça peut donner un peu de grain à moudre à certains acteurs, mais que peut Didier Drogba aujourd'hui? Il l'a dit en 2005, ça n'a pas manqué. Quelques années après, en tout cas, tout le monde l'a cru, on est revenu à la case départ. Voilà, donc cet élément-là est décisif, il est important, mais bon, il faut justement bien comprendre le conflit, savoir où se trouvent justement les intérêts en jeu, autour desquels les uns et les autres en tension. Sinon, il y a eu Didier Drogba qui a parlé, il y a eu même au niveau de la Côte d'Ivoire la flamme de la paix, où l'ex-chef de l'État avec le principal responsable de la rébellion se sont retrouvés à Boaké dans un stade plein à craquer, où ils ont fait une cérémonie. Mais on reste dans l'ordre du cérémoniel, du symbolique. Mais on ne touche pas au cœur même du conflit. Qui? Parce que dans le conflit, il y a différentes dimensions. Il y a toute la question d'un pouvoir dont la légitimité est contestée par un groupe, dont il prend, qui se donne les moyens de justement faire tomber ce régime. Et justement, il y a la transposition de cette lutte sur le pouvoir au niveau local, où justement on donne de l'épaisseur à des tensions qui travaillent la société. Donc tout ça crée une sorte d'imbroglio, de sorte que parfois, lorsqu'on ne fait que travailler sur la dimension sociale, on oublie justement de faire s'accorder les acteurs qui justement instrumentalisent la lutte sur le pouvoir politique.
On revient à la dimension symbolique, finalement, Sandrine Lefranc, qu'on évoquait au début, importante mais pas suffisante.
Quand j'entends Drogba, moi aussi, j'ai un frisson et j'ai envie de me mettre à danser, sauf que Drogba, il aurait sans doute mieux valu qu'il s'adresse aux hommes politiques qui étaient les principaux responsables, plutôt que de laisser penser que la population ivoirienne était celle qui portait la guerre, c'est une chose.
Après, c'est déjà pas si mal qu'un sportif de haut niveau intervienne comme ça, parce qu'ils sont pas si nombreux.
Et puis si au moins ça nous intéresse, nous, à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est déjà ça de gagner, tant mieux. Par contre, le football est devenu une arme de la communauté internationale pour essayer de réconcilier les personnes. On trouve ça, ça fait partie de certains packages d'ONG, essentiellement des ONG était américaine, enfin d'origine américaine, les festivals de chansons, le foot et toute autre forme d'activité sportive sont des moyens qu'on utilise aujourd'hui pour réconcilier les populations, qui parfois n'ont pas besoin d'être réconciliées. Mais par contre, peut-être n'oublions pas que le foot un jour peut nous faire coexister et que la guerre renaîtra assez aisément. Au Rwanda, les Hutus et les Tutsis jouaient au foot ensemble, ils buvaient la bière ensemble, ça ne les a pas empêchés de se tuer en 3 mois. C'est une affaire politique, la guerre. Et l'affaire politique, elle se déclenche en 3 mois s'il le faut, dès lors que les hommes politiques y mettent les moyens.
Le football, d'ailleurs, en Colombie, c'est aussi une affaire passionnelle, mais qui peut créer un certain nombre de tensions. Je ne vais pas vous demander de commenter la question footballistique, Anne Boucher.
C'est mieux.
Je vous rassure, mais pour terminer, parce que bon, je me souviens plus précisément, moi je sais qu'à suite à des matchs de foot, il y avait eu un certain nombre de violences en Colombie. Je crois qu'il y avait eu une fois notamment un gardien de but qui, parce qu'il n'avait pas arrêté un penalty, même s'il n'a pas été assassiné. Bon, ce sera à vérifier, hein. C'est sous réserve, mais il me semble bien qu'il y avait eu ça. Mais en tout cas, je voulais terminer sur la question de la violence. C'est-à-dire que signer un accord de paix, ça met peut-être fin à une guerre, mais ça ne met pas forcément fin à la violence. Alors la Colombie, on sait, elle est confrontée à la question du trafic de drogue, qui est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, en tout cas une attention à porter, sur le fait que on peut déporter certains phénomènes de violence en dehors du conflit politique, mais pour des phénomènes, par exemple, de banditisme qui seraient encore plus poussés?
Bien sûr, c'est une des principales craintes aujourd'hui. C'est finalement une transposition du conflit. Bon, déjà, il y a plein de conflits dans le conflit. Hein, je l'ai dit, il y a déjà des conflits autour de l'implantation de multinationales. Il y a le fait qu'il y a quand même une autre guérilla, les paramilitaires qui ont le contrôle de certains territoires. Et puis, il y a aussi une violence d'État en dehors du conflit qui réprime certaines manifestations. Voilà, donc la violence, elle est partout. Et le risque est effectivement très prégnant aujourd'hui. Par exemple, les FARC qui refuseraient de se démobiliser véritablement pourraient décider d'aller dans l'autre guérilla ou dans des groupes mafieux, puisqu'ils sont déjà très liés au narcotrafic. Voilà, il n'y a pas vraiment de débouché possible. Les paramilitaires, voilà, ça fait partie des objectifs des accords de les démanteler, mais eux n'ont signé aucun accord avec le gouvernement. Et puis il y a certains politiques ou détenteurs du pouvoir qui n'ont pas intérêt à la fin du conflit et voilà, qui ont envie de garder leur précaré, donc qui ont tout intérêt au contraire à ce qu'il y ait toujours ces violences.
Juste d'un mot, Séverin Kouamé, c'est un phénomène que vous avez constaté en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des phénomènes de violence qui n'existaient pas auparavant, mais où sont peut-être d'anciens combattants qui, peut-être par désœuvrement, parce qu'ils n'ont pas été des armées, se retrouvent aujourd'hui dans une nouvelle forme de banditisme.
Oui, parfois quand une crise arrive, on a le sentiment que la crise ne vient ou vient avec son juste son lot de violences, mais il y a des violences qui sont structurelles dans une société. Et dans une société comme la nôtre, dans laquelle une bonne partie de la population jeune se retrouve justement en questionnement sur son avenir et se rend compte que dans ses rapports avec les aînés sociaux, le seul langage que les aînés sociaux comprennent, c'est celui de la violence, mais c'est une violence qui est structurelle et qui existe. Et la guerre ne vient que se superposer et donner de l'épaisseur à cela. Par exemple, l'enrôlement des jeunes justement dans les factions combattantes répond un peu à ce besoin-là. Il y a des jeunes qui se construisent un capital de violence qui n'attend que d'être mis à disposition de tous ceux qui viendraient bien les démarcher. Et une rébellion armée est une opportunité toute gagnée. Pendant la crise ivoirienne, pendant que certains se faisaient engager comme patriotes pour justement se retrouver auprès de groupes dits d'autodéfense, etc., proches du régime d'alors, il y avait d'autres qui ont rejoint la rébellion. Toujours est-il que certains avaient, tous ces jeunes-là avaient en partage un même potentiel de violence qui n'attendait que de s'exprimer. Et lorsque la guerre finit, on se retrouve justement avec certains phénomènes de violence post-conflit qui sont en fait une forme de recomposition de la violence que les jeunes ont produit pendant la crise, pendant le conflit.
Donc on voit bien à quel point effectivement la notion de temps en amont pour préparer la paix, mais aussi ensuite pour qu'elle soit véritablement effective, est essentielle dans la compréhension de ce sujet auquel je vous remercie de nous avoir apporté vos lumières à tous les trois. Un grand merci à Séverin Kouamé, Anne Boucher et Sandrine Lefranc. Vous pouvez réécouter cette émission de manière illimitée, la télécharger pendant un an. Vous pouvez également nous suivre chaque jour sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Mathilde Barbier, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Élise Le. Demain, à l'occasion de la rentrée scolaire, nous poserons la question suivante. Quelles inégalité, l'école doit-elle combattre? Ce sera en partenariat avec le journal La Croix. Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen avec au sommaire ce soir.